bonsoir à toutes et à tous. Conférence nucléaire. Je tenais, avant de rentrer dans le vif du sujet, à remercier le PNP. C'est toujours un honneur et surtout un plaisir d'être là. Je remercie particulièrement Jean-Pierre Jourdain qui m'a proposé de venir devant vous ce soir. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de l'Université populaire, pas tout le monde, certains d'entre vous. J'en suis très heureux aussi. Et je voulais vous présenter les deux acteurs qui ont fait le plaisir de m'accompagner dans ce moment, qui sont donc Béatrice Janingo et Mohamed Bressard. Donc nucléaire, pourquoi parler de nucléaire, qui est une pièce un peu oubliée du répertoire français, et d'Henri Pichette, qui en est son auteur. Avant tout parce que cette pièce a fait l'ouverture du TNP, alors pas du TNP de Villeurbanne, mais du TNP à Chaillot en 1952. Cette pièce faisait l'ouverture du TNP avec la barre, le 30 avril c'était la barre, et le 3 mai, nucléaire dans le Bichette. Elle est exceptionnelle par sa programmation à cette date-là, par le choix que Jean Guillard avait fait d'ouvrir son théâtre par cet auteur contemporain. Elle est par bien d'autres aspects, en le disant aussi, parce que c'est la première mise en scène de l'hierarchie. Parce que c'est la première fois qu'on utilise au théâtre le système de la stéréophonie. Parce que les décors et la scénographie étaient conçus par Alexandre Cassel, excusez peu. Et donc, on avait affaire à un événement théâtral vraiment très important. Alors, ce que je vous propose, c'est de. D'abord, je vais vous dire quelques mots de chacun de ceux qu'on peut appeler finalement les quatre mousquetaires de cette pièce, que sont Pichette, Gérard Philippe, Calder et Jean Villard. Et puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet pour vous donner à comprendre dans quelle ambiance elle a été créée, quelle est, ce que la pièce est vraiment, et ensuite comment elle a été reçue par le public de l'époque. Alors juste un petit... Donc on a dit que c'était détendu, donc s'il y a des problèmes techniques, vous les laissez. Donc nucléaire par la collection du répertoire, évidemment. Donc, Henri Pichette, qui est un poète et un auteur dramatique, est né en 1924. Son père était un Québécois qui avait immigré aux États-Unis et qui est venu en fait en 1917 dans le... pour libérer la France. Il y a trouvé une Nîmoise et ils ont donc eu deux enfants, James et Henry, avec un Y au départ, Henri Pichette. Sa mère est morte jeune, il a eu une enfance assez bouleversée, il a beaucoup, il a été brinque-ballé d'une ville à l'autre en quelque sorte. Et il n'a pas suivi une scolarité très régulière. Il a été à un moment embarqué dans son adolescence et sa jeunesse dans le mouvement des Zazous, vous savez, les cheveux longs, qui par ailleurs étaient assez engagés politiquement, parce que certains d'entre eux portaient une étoile jaune avec Zazou pendant le régime de Vichy, donc ce qui faisait que c'était plutôt mal vu. Du pouvoir. Il a été renvoyé de chez les frères des écoles chrétiennes où il avait été mis. Et quand il a été appelé au chantier de Genève, on est en 1944, il a déserté, il a rejoint les FFI à Marseille et il s'est engagé dans l'armée de libération. Voilà, c'était un parcours d'un jeune homme très vif déjà et qui, pendant la guerre et juste après la guerre, commence à étudier. Il écrit des poèmes qu'il appellera les A-poèmes. Il est fasciné par Antonin Artaud, qu'il rencontre et avec lequel il a l'honneur de publier des poèmes dans une même plaquette. Il y avait eu chacun leur refusé, ils les ont publiés ensemble. Et il se lie aussi d'amitié avec Gérard Philippe, dans la région parisienne où ils allaient en vacances ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'il se met à écrire sa première pièce, qui s'appelait donc Les Épiphanies. Cette pièce qu'il lit, et on verra que c'est quelque chose qu'on retrouvera pour Nucléa, qu'il lit au fil de l'écriture à Gérard Philippe et avec qui il discute beaucoup. Donc Les Épiphanies, dont vous voyez ici quelques images, est une pièce qui a été créée donc, en 1947 au Théâtre des Noctambules, avec dans la distribution Gérard Philippe, qui jouait le poète, Maria Cazares, vous voyez ici, l'amoureuse, il y avait Michel Michalon qui jouait l'ami, et Roger Blin qui jouait Monsieur Diable, sous mise en scène de Georges Picoli, qui a été salué assez positivement par la critique qui a particulièrement apprécié la vivacité de l'écriture, un peu dans la veine surréaliste mais renouvelée. On peut dire que c'était un coup d'essai, c'était un bon coup d'essai, et la même année, en 1947, il publie son premier recueil de poèmes. De ce spectacle, Les Épiphanies, Alfred Simon disait spectacle gigantesque pour théâtre de poche, puisque les Noctambules, c'est tout petit. Et Audiberti résumait ainsi épopée frénétique de l'angoisse révoltée. À signaler tout de même que donc, cette tentative d'écriture, elle se situe à un moment avant Beckett, avant Ionesco, et tout début d'Adamov, c'est un moment où ceux qui dominent la scène, c'est plutôt Giraudoux, Sartre, donc vous voyez, on est avant l'avant-garde des années 50. Il est donc très proche de Gérard Philippe, qui l'accompagne en 1951 au Festival d'Avignon, donc c'est vraiment les deux amis qui ne se quittent pas. Alors Gérard Philippe, je ne vais pas vous faire biographie du Gérard Philippe. Donc il est né en 22, je le rappelle, vraiment deux hommes de la même génération, ils ont deux ans de différence. Il a fait ses débuts au théâtre pendant la guerre, avec notamment Sodome et Gomorre de Giraudoux, ou Caligula, la création de Caligula d'Albert Camus. Et très vite, il a fait une carrière au cinéma, dans les films notamment de Marc Allégret. Je citerai quelques-uns de ses films pour lesquels il a déjà eu des prix dès l'après-guerre, donc Le Diable au corps de Claude Autant-Marat, pour lequel il a eu le grand prix d'interprétation de la critique internationale, et ou par exemple La beauté du diable de René Clair, ou La ronde de Max Ophüls. Il a eu la victoire du meilleur acteur du cinéma français en 1950. À cette époque-là, en 1948, il refuse d'entrer, il est sollicité par Jean Villard, mais il refuse de jouer aussi pour Avignon, comme Jean Villard le lui proposait. En octobre 51, c'est l'inverse, c'est Gérard Philippe qui revient voir Jean Villard en lui disant « Oui, cette fois-ci, je suis intéressé et je veux bien participer au Festival d'Avignon, ça sera le Prince de Hambourg et le site. » Il signe aussi dans la foulée son engagement dans le TNP, qui marque quand même un basculement fort dans la carrière d'un comédien plein de succès à venir au cinéma, qui choisit de s'engager à salaire équivalent dans une troupe qui commence un travail très novateur, puisque c'est l'ouverture du TNP, avec d'abord les représentations à Suresnes et dans la banlieue parisienne, et puis l'ouverture sur laquelle on va revenir en 1952. Pour juste replacer dans la chronologie, pour ça que je choisis le Fanfan La Philippe, le 3 mai, donc c'était la première de Nucléa, le 20 mars, juste avant, c'était la sortie en salle de Fanfan La Philippe. Et dès le 1er avril, il est retourné sur les plateaux de cinéma pour tourner Les Belles de Nuit de René Clair. Donc on peut dire que c'est déjà un comédien célèbre, récompensé à plusieurs reprises, le héros, l'incarnation de la jeunesse, et comme disait un de ses amis, Gérard, à 20 ans, représentait ce que j'aurais voulu être à 20 ans, et à 37 ans, il était encore ce que j'aurais voulu être à 20 ans. Avant de passer à Calder, je voudrais, parce que c'est le contexte de la pièce Nucléa, en fait, Nucléa, c'est une allusion claire ou nucléaire à la bombe atomique, à cette peur qui enserre le monde à cette époque-là. Et rappelle, dans les années, en 1950, il y a eu ce qu'on a appelé l'appel de Stockholm, qui était un appel international pour l'interdiction de la bombe atomique. Et Gérard Philipe a été un des premiers signataires de l'appel de Stockholm, avec les montants Signoret et bien d'autres personnes de l'intelligentsia française et étrangère, Louis Aragon, Duke Ellington, Chagall, Matisse, Marcel Carnet, enfin, j'en passe et des meilleurs, qui, sans doute Pichette, mais je n'ai pas pu en trouver la trace, qui signe cet appel, qui est un appel donc, pour la paix, c'est aussi un thème qui va habiter la pièce nucléaire, contre la bombe atomique, ce qui, soit dit en passant, est aussi une manipulation dans ce monde bipolaire de l'après-guerre, donc avec les deux, les Russes et les Américains. Les Russes se sont saisis, Moscou s'est saisi de ce mouvement-là, pour dire si vous êtes contre la bombe atomique et pour la paix, vous êtes donc contre ceux qui détiennent la bombe atomique, autrement dit les Américains. Donc ça a été vu ensuite comme un mouvement anti-américain. Les deux hommes, Philippe et Pichette travaillent beaucoup ensemble. Il le dit lui-même, il écrit Pichette, nombre de fois, j'eus à lui lire, à Gérard Philippe, les épiphanies nucléaires, lecture de travail, où pour ainsi parler, il désirait que je lui donne le « là ». Il écoutait avec attention, absorption, comme s'il eût fait son miel des fleurs de rhétorique. Si quelque chose clochait, il se prenait à rire, d'un rire pareil à de la pudeur ou à une évasion. Ça et là, il me faisait reprendre. Il proposait une nuance, il creusait, il notait. Je sentais sa mémoire sous le burin, son esprit en arrêt. Puis, un matin, tel un peintre qui distribue les couleurs, il disposait la palette de sa voix. Et fort d'un ton, il se lançait, et mon oreille croyait voir les demi-teintes de l'amour, des éclats de joie, au soleil, un camaïeu de tristesse nocturne, la raison du poème sur un fond de folie. Ces deux hommes sont allés trouver, en quelque sorte, un sculpteur déjà très connu, Alexandre Calder, qui est un Américain, qui lui est un homme beaucoup plus âgé, il a une bonne cinquantaine d'années. Il est connu parce qu'il a déjà eu des rétrospectives importantes au muséum de MoMA à New York, une grande exposition à Paris en 1946. Il faisait partie en 1947 des artistes qui ont été choisis pour la semaine d'art à Avignon, hein, vous savez, c'est le début du festival. En 1952, donc l'année de Nucléa, il reçoit le grand prix de la Biennale de Venise. Et au moment de Nucléa, à la Galerie Mag à Paris, s'ouvre une exposition à Alexandre Calder mobile. Donc c'est une stature internationale forte que Pichette avait rencontrée, je crois, par l'intermédiaire de Giacometti. Il s'était retrouvé ensemble chez Giacometti. Il lui avait proposé de faire le décor de sa prochaine pièce, ce que Calder avait accepté avec plaisir. Il avait peu d'expérience au théâtre, plutôt dans des spectacles étudiants en fait. Et donc, il accepte et il avoue avoir travaillé plutôt par osmose avec l'auteur et le metteur en scène, car il n'a jamais eu le texte en entier. Il a rencontré Villard, bien sûr, qu'il a trouvé très sympathique, mais un peu sérieux, et il préférait visiblement la compagnie de Pichette et de Gérard Philippe, who were very gay. Il écrit d'ailleurs, il se souvient, I remember many gay reunions with Pichette and Philippe. Pichette habitait, raconte-t-il, tout en haut d'un immeuble, dans une chambre de bonne du 16e arrondissement, qui était. C'était un riche mécène qu'il mettait à sa disposition. Il disait que c'était très dur de monter les petits étages, surtout quand on était lesté de bouteilles. Mais quand on arrivait en haut, on était vraiment récompensé. Souvent, Pichette parlait plus vite que je ne pouvais comprendre, mais quand je comprenais quelque chose, c'était vraiment bien. Et il termine en disant que Pichette aimait beaucoup imiter les bruits d'animaux. Et il disait. Le chien aboie, le cheval hennit, et à chaque fois il faisait, je vous épargne les hennissements, la vache meugle, le hibou ulule, et Pichette déconne. Donc Villard, un peu plus sérieux, il faut dire qu'il avait Calder, dans son atelier. Et voilà, donc Villard, Gérard Philippe, au fond Léon Guichia, le costumier, le patelier de l'UPA, et puis Bichette au milieu avec la cigarette à la main. Donc Villard, lui, il est à une période de sa vie où il écharpe sa cumule pour son plus grand plaisir sur ses épaules. Donc, il prépare le 5e festival d'Avignon. Il n'a pas de théâtre avant le TNT. Hein. Il a une activité de metteur en scène, en fait. Il met en scène, par exemple, l'invasion d'Arthur Adamov au Théâtre des Champs-Élysées, Édipe de Gide au Théâtre Marigny. C'est d'ailleurs en allant à Marigny chez Jean-Louis Barrault que Villard rencontrera Maurice Jarre, hein, qui s'occupait là-bas les ombres Martenot. Il joue dans un certain nombre de pièces, comme je le disais, notamment dans la dernière mise en scène de Louis Jouvet, Le diable et le bon Dieu de Jean-Claude Sartre, au Théâtre Antoine. Quand en novembre 50, il voit arriver Gérard Philippe, il raconte lorsqu'il vint me trouver dans ma loge de l'atelier en novembre 50 et se proposer comme interprète, il savait bien que je n'avais pas de théâtre. Tout en me démaquillant ce soir-là, je regardais du coin de l'œil ce garçon célèbre que je ne connaissais mal, grand, dressé, le geste rare, le regard clair et franc. Sa présence était faite à la fois de force, calme et de fragilité. Donc il l'engage, et c'est, comme je le disais tout à l'heure, le prince de Hambourg et le Cid, qui en juillet 51 valent à Jean Villard la question, enfin le, ou du moins la remarque de Jeanne Dorant, dont vous savez qu'elle s'occupait du théâtre au ministère des Beaux-Arts, et qui lui dit à la sortie du prince de Hambourg, il faudrait que vous dirigiez, ou préparez-vous à diriger les activités populaires du théâtre. Comme dit Villard, le mot populaire, oui, était au pluriel. Et Villard répondit vivement, oui, mais pas en province. Je laisse au Lionel, au Lionel Manet, l'appréciation de cette remarque. Voilà, et donc ensuite, évidemment, c'est l'aventure du TNT. La mort de Jouvet permet à Villard de récupérer un certain nombre de grands artisans du spectacle qui étaient autour de Jouvet, notamment Camille de Mangeard. Et donc il signe son contrat pour le TNT, il commence, comme je disais tout à l'heure, la banlieue, puis l'ouverture. Et au moment de l'ouverture, donc le 30 avril, là, Pichette n'est pas enfermé dans sa tour d'ivoire de poète. Il pense à Villard, il lui écrit « Cher J, la lettre c'est « Cher J, point. Tout à l'heure tu y seras. Je sais que tu es fatigué, que ton effort exigera encore un maximum. Sache que je suis, et du fond du cœur, avec toi, avec Léon, Guichia, avec chacun qui t'environne, et avec Camille de Mangea, et avec Savron, qui sont des lumières, et avec l'ami qui vous va comme la parole au lèvres. Je suis ému, c'est nature, bonsoir. » Alors, pour retrouver nos quatre discothèques presque en live, je vous propose d'entendre une interview radiodiffusée, mais radiodiffusée qui a été elle-même publiée dans les journaux. Donc c'était une émission qui s'appelait Entrée des auteurs, où Michel Pollack, il vient de disparaître, interviewait, donc c'était dans l'environnement du club d'essai, pour ceux qui connaissent l'histoire de la radio, et donc interviewait Pichette, Villard, Calder et Gérard Philippe.
C'est aussi bien sentimentalement que qualitativement que j'aime la pièce montée par Jean Villard à Chaly. Les épiphanies sont vivantes entre nous encore et Nucléa se prépare, je crois, à vivre de même pour bien des années.
Henri Pichette, dans quel esprit avez-vous écrit cette pièce? Est-elle une continuation de l'expérience des épiphanies?
Non, je ne pense pas. J'ai voulu faire un retour au classicisme dans la mesure où cela est possible actuellement.
Il faudrait que tu expliques ce que tu entends par classique, car il peut y avoir malentendu sur le mot.
Non, j'entends par classique ce qui a de la classe et qui pourra former les générations à venir. Ainsi, sur le plan de la peinture, je dirais que Rouault est un peintre classique, comme sur le plan de la sculpture, Calvert me semble être classique.
Je crois qu'en écrivant cette pièce, Henri Pichet, vous avez pensé tout de suite à Calvert, pour les décors et pour les maquettes de mobiles.
Oui, oui, nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans. C'est alors que nous en avons parlé.
Alors, Alexandre Calvert, est-ce la première fois que vous travaillez pour le théâtre?
Oui, effectivement. Et je suis choqué de m'entendre pour la première fois traiter de classique.
Comment avez-vous prévu vos décors, vos maquettes et vos mobiles?
Je me suis dit avant tout, arranger pour éviter de faire les acteurs se rompre le cou.
À part ceci, vous avez, je crois, prévu des mobiles qui sont accrochés au cintre du théâtre de Chaillot.
Oui, des mobiles et d'autres choses qu'on ne connaît pas encore.
Jean Villard, quelle expérience avez-vous entendu faire en montant cette pièce? Elle suscitera peut-être des remous.
Je pense qu'il y aura des gens très mécontents, en effet. Mais par plaisir et par système, nous avons présenté à Chaillot la pièce d'un auteur jeune. C'est ce que nous voudrions faire dans le Théâtre National Populaire à tous les coups. Il est regrettable que nous ne rencontrions pas à tous les coups des pièces aussi valables, aussi courageuses et aussi belles que celles de Pichet.
La première pièce d'Henri Pichet, Les Épiphanies, a été montée au Théâtre des Noctambules pour un petit public. Nucléa est montée à Chaillot, c'est-à-dire dans une salle de 2800 places. Pensez-vous, espérez-vous toucher un grand public?
Ce qui m'avait frappé au Noctambule quand j'avais vu Les Épiphanies, c'était d'abord que Pichet n'était pas classique au sens ordinaire du mot. Je crois qu'un théâtre national, pour bien vivre et vivre de son temps, doit ne pas penser à ces questions de classique. Je comprends que, de toute façon, Pichet ait employé le mot tout à l'heure, mais pour nous, ce qui compte, c'est précisément d'oublier ces choses-là. Car nous nous sommes aperçus, avec le Cid, que s'il y avait un bonhomme qui n'était pas classique dans la littérature française, c'était Corneille.
En effet, c'est bien ce qu'on lui reprochait à l'époque. Henri Pichet.
Dernier mot. Toute l'animosité que je décèle autour du mot classique prouve qu'il est avant-garde.
Alors, cet article fait partie d'une flopée d'articles, en quelque sorte, d'une série d'avant-papiers qui ont paru dans les jours qui ont précédé la première et dont on peut dire que c'était une véritable campagne de presse bien orchestrée par le TNP pour faire monter la pression et la tension autour de la première de Nucléa. Par exemple, dans Combat, il y a eu une page, alors ça c'est un des titres, le TNP sera exposé ce soir à la seconde pièce de Pichet. Dans Combat, on a une pleine page sur Nucléa. Le public du TNP encaissera-t-il les coups du boxeur Pichet? C'est une allusion à un des poèmes de Pichet dans lequel il écrit « J'écris avec des mots qui boxent ». Pichet, le jeune anarchiste poète, accueilli sur une scène officielle, il aura toute liberté de prouver qu'il a quelque chose dans le ventre. Le journaliste appelle à la rescousse, si on peut dire, Sartre, qui commente la contribution de Calvert. On parle de la stéréophonie en rappelant que l'un des pionniers de la stéréophonie, c'est donc le cinéaste Abel Gance. En fait, tout est présenté comme inédit, grandiose, déjà controversé. D'autres textes, d'autres articles, Jean Villard compte donner le maximum de force au texte explosif de Pichet. On n'a pas négligé sur les moyens financiers. Villard lui donne une dernière interview en disant « Ni révolution, ni renouveau, Nucléa est une volonté. Nous avons joué le parti des jeunes. » Ça reviendra très, très souvent. Villard défend la grande vertu poétique du texte, en en faisant parfois peut-être un peu trop. Pichet, incontestablement, possède à mes yeux le génie du verbe, le génie du rythme, le génie prosodique. Enfin, il possède comme Claudel un sens évident de la sonorité et du pouvoir intrinsèque d'incantation dont le mot a le privilège. Donc, on prie vraiment Progénie. Et Pichette lui-même publie un grand article le jour même de la première qui s'intitule « Le cœur est un théâtre qui bat » dans lequel il se laisse aller à des grandes prose poétique. Le théâtre est le berceau de l'imitation, le cerveau est le théâtre des sensations, le ciel est le théâtre du soleil et le rôle du soleil est la lumière. Les stratèges parlent du théâtre des opérations. Les soldats ne tombent-ils pas dans le théâtre de la guerre? Le cœur est un théâtre qui bat. Cette campagne de presse n'a pas échappé évidemment aux journalistes qui, au mieux, ont dit qu'elle était habilement orchestrée, ont parfois, au pire, dit que c'était une publicité tonitruante et moutonnière, qui est le principal adversaire en ce moment de l'entreprise de Jean Villard. Alors, venons-en plus concrètement à ce qu'a été le spectacle. Donc, Gérard Philippe s'est beaucoup investi dans la mise en scène. Je vous montre juste un extrait d'une lettre qu'il écrit en Pichette pendant le temps des répétitions. Là, vous en voyez le début, il reprend un certain nombre de points liés au décor, liés à la stéréophonie, beaucoup liés au texte, hein, dont on a vu qu'ils travaillaient ensemble pour l'améliorer. Philippe lui propose des coupes, lui propose de réécrire certains passages. La distribution a été choisie, était assez nombreuse, il y a 25 comédiens dans la distribution, avec Gérard Philippe, Jean Villard, avec Jeanne Moreau, on ne manque pas de la faire apparaître sur les photos des articles qui annoncent le spectacle, des acteurs qui comptent sur la scène du moment, comme Jean Deschamps, Louis Arbessier, des jeunes qui montent, comme Charles Denner, ou Françoise Spira. Donc, tout ça contribue à la montée en puissance. Il y a deux éléments scénographiques très forts qui sont d'une part la stéréophonie et la musique et d'autre part les décors. Alors, la stéréophonie et la musique, j'y insiste un petit peu parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tous les moyens que nous avons pour travailler le son dans les salles de spectacle, le fait que l'on diffuse du son en stéréophonie peut paraître un petit peu banal et sans intérêt. À l'époque, c'est en fait le premier spectacle de théâtre qui utilise ces technologies-là. Technologie qui est toute récente, qui est née en fait dans le sein du club d'essai de la radio française qui était présidé, animé par Pierre Schaeffer, qui a donné naissance à la musique concrète. Musique concrète qui s'était d'abord développée dans une électroacoustique en mono, et qui devient, à partir d'une expérience de 1950, la radio essaye la stéréophonie. Alors, c'est deux réalisateurs radio, qui s'appellent Jean-Victor Garret et José Bernard, donc on retrouve le nom au générique du nucléaire, de techniciens de l'ORTF, qui tentent cette expérience avec une dramatique qui s'appelait Une larme du diable, qui était adaptée d'un texte de Théophile Gautier, dont la réalisation et la conception s'est faite sous l'autorité de René Clair, dont on a vu qu'il connaissait bien Gérard Philippe, et dans la distribution de cette dramatique, il y aura Gérard Philippe. Donc, l'idée, c'est de donner, avec la stéréophonie, l'illusion de la profondeur sonore, le relief sonore, en quelque sorte, et puis aussi le déplacement du son dans l'espace. Donc, pour cette expérience-là, on a diffusé sur deux chaînes de radio, France 1 et France 2, deux signaux radiophoniques distincts, et il fallait donc écouter à deux postes radiophonie différente, donc pour avoir le sentiment de la stéréophonie. Donc c'est sans doute dans le travail sur cette dramatique-là
que Gérard Philippe a pris l'idée de mettre de la stéréophonie dans la salle de Chaillot. Dans la salle de Chaillot, ça s'est traduit par un équipement tout à fait nouveau. Il y avait une douzaine de haut-parleurs qui étaient répartis dans toute la salle. Ils avaient, d'après ce qu'on peut savoir, des formes de coquillages, de conques blanches, en quelque sorte. Il y en avait en fond de salle, sur les côtés et dans les coulisses, ce qui permettait de diffuser en fait le son soit à un endroit, soit à l'autre, soit voilà, de manière très, très diverse. Et évidemment, celui qui a orchestré, si on peut dire ça, c'est Maurice Jarre. Maurice Jarre, voilà, donc vous voyez la photo dans le programme de Nucléaire. Maurice Jarre, qui, donc, je le rappelle, était le fils du directeur technique de la radio de Lyon, et qui avait, dont le goût pour la musique s'était développé plutôt à l'adolescence. Il a rencontré Henri Dutilleux, puis il a fait la connaissance par son intermédiaire de Ginette et Maurice Marteneau, donc l'invention des ondes Marteneau, et par leur intermédiaire, il en est venu à travailler sur les Renaud Darbo à Marigny. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est là qu'il a rencontré Villard au moment de l'équipe de Gide que mettait en scène Villard. Et dans l'équipe de Marigny, la musique de Marigny, il y a aussi Pierre Louis. Donc, voilà, et Maurice Jarre compose une musique dont on va entendre quelques extraits, mais il coordonne aussi l'ensemble des effets sonores. Je vous lis quelques lignes d'une interview à laquelle il a répondu au sujet de cette stéréo. Cela va commencer dès le début, la salle restant allumée, les derniers spectateurs s'installant par une sorte de pulsation musicale stéréophonisée, insensible d'abord, et qui peu à peu s'empare des tympans pour les surprendre tout à coup par un brusque crescendo correspondant à un diminuendo des lumières. Et l'on commencera sans qu'il soit besoin de donner les trois coups, qui était à l'époque plutôt rare. Des exemples de stéréophonie, les fusillés de Nucléa répondront un à un de la scène à l'appel d'une voix venue du fond de la salle et amplifiée. Le brombissement d'un avion traversera le ciel de la salle. Une bombe sera lâchée sur la scène. Des chiens aboieront derrière les spectateurs. L'écho d'un corps anglais se promènera dans toute la salle, d'une conque à l'autre, sans qu'on sache vraiment d'où il vient. Pichette lui-même, très excité par l'expérience, a fait enregistrer sa voix parmi celles des récitants. Il criera par exemple « Celui du sang ». Alors, deux extraits sonores, qui font deux minutes chacun, qui vous donneront déjà la tonalité des deux parties principales de la pièce. La pièce est divisée en trois parties, mais la partie centrale est plutôt un intermède. La première partie est, on va dire quoi, pour thématique globale, je reviendrai, la guerre, c'est noir, et la deuxième partie, l'amour, beaucoup plus léger. Donc, je vous fais écouter donc un petit extrait de la musique de Maurice Jarre pour la première partie. La deuxième partie.
invité très différent. Alors, le décor. Donc, comme vous l'avez compris à propos de la musique et des lumières, le décor était planté dès le départ, il n'y avait pas de rideau. Je souligne parce qu'à l'époque, c'était là aussi tout à fait souligné par la presse, parfois avec des petites remarques sarcastiques. Ça n'a pas toujours été compris comme un signe novateur. Alexandre Calder explique que Gérard Philippe voulait d'emblée pouvoir jouer sur deux niveaux et voulait donc un praticable qui permette aux acteurs de circuler au-dessus, à peu près 2 mètres au-dessus des planches de la scène. C'est pour ça qu'il a conçu ce système-là. Donc, après, c'est d'abord Calder qui a conçu l'ensemble de la scénographie, pas seulement les mobiles. Vous voyez, donc, on a un praticable central avec au lointain un autre praticable en arc de cercle, puis sur le devant, un petit praticable en rotation. Ça est en bois sur des supports comme des échafaudages qui à l'époque étaient aussi assez novateurs et donc légèrement en pente pour avoir quelques marches qui permettent de descendre sur le plateau. Donc les acteurs jouaient sur les deux niveaux. Il y a ajouté des éléments scéniques plus proches de son esthétique à lui. Un mobile qui s'appelle La Crainte, c'est celui-ci, avec donc des trois plaques qui sont noires et blanches. Et donc Calder rappelle que c'était un mobile qui descendait à la fin de la première partie, puisque cette première partie se termine par une réplique du personnage principal qui était joué Gérard Philippe, qui disait « Je aiderai les étoiles et puis la nuit, le lumineux phare balayera mon visage et je n'aurai plus de pensée que pour les horizons. » Et nuit et jour et nuit. Donc, le symbole, c'est l'alternance du jour et de la nuit à travers ce mobile-là. Il y a ajouté un stabile. Donc là, on verra tout à l'heure dans une photo un peu meilleure que ce grand stabile qui est posé ici est rouge. Et puis, aussi, une sorte de ce qu'un critique décrit comme un grand avion posé comme un héron au pas démultiplié. Je ne sais pas si ça vous donne tellement à comprendre, mais en bas, c'était une sorte d'enchevêtrement de tiges. On ne voit pas sur les photos, mais c'était plutôt en fond de scène sur le praticable. Ensuite, il y avait un deuxième mobile pour l'intermède dont je vous parlais, qui s'appelait La Nuit, et qui était un ensemble de lunes en forme de croissant. Et enfin, un troisième mobile qu'on voit assez mal ici, mais qui était celui intitulé L'amour. C'était une sorte de grand insecte métallique dont les plans tremblotent comme des feuilles de peuplier et qui était rouge vif. Et ce mobile-là existe toujours, il est à la maison Jean Villard à Avignon. Donc, tout ça a été réalisé ensuite dans les ateliers du TNP, qu'est-ce que dirigeait Camille de Mangin. Le travail de, donc, voilà, en couleur, la scénographie, avec Calder, c'est payant, et donc vous voyez, en fait, il y a aussi des personnages qui sont des soldats, en fait, qui appartiennent à un groupe qu'on trouve dans la pièce, qui s'appelle la masse, c'est une masse de soldats anonymes, en quelque sorte, qui sont eux aussi costumés par Calder. C'est lui qui a imaginé ces costumes-là, en cuir, probablement de cuir ou de matière plastique, et beaucoup de clous et de matière métallique. Donc tout ça a été réalisé aussi dans les ateliers par la réalisatrice des costumes qui a aussi créé des costumes, Madame Dobouvinski. J'oublierai une chose importante, si je ne citais pas Pierre Sabron, dont on connaît l'importance pour les lumières du TNP, parce qu'en effet, tous ces éléments scéniques, ces costumes, ont eu un effet démultiplié par le travail des Lumières qui a été très soigné par, par Pierre Savin. Alors, la pièce elle-même, donc comme je le disais, se divise en trois parties. La première s'intitule Les Infernales. Les Infernales est sous-titré Cauchemar. La deuxième est un intermède et la troisième s'intitule Le ciel humain. Donc, comme je disais quand je parlais de l'appel de Stockholm et de la question de la bombe atomique, le cauchemar, c'est le cauchemar en fait de l'ère atomique, avec une omniprésence de la violence et de la mort. C'est ce que nous montrent les différents personnages qui sont sur scène. Le monde qui s'offre à Pichette, à Gérard Philippe, après la guerre, est un monde où le monde moderne, menacé de toutes parts par l'envahissement de la science, par le progrès mis au service du massacre, et donc un seul personnage, garde espoir dans ce monde-là, c'est Tellur, le personnage joué par, par Gérard Philippe. Donc je vous propose, avant d'entendre un extrait plus long, d'entendre un document qui est assez rare, qui est en fait un enregistrement d'une répétition d'une italienne. Donc on a l'enregistrement dans les collections du département des arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France que pour le gros partie de la première partie. Donc, les acteurs parlent vite, un technicien fait les bruitages, et donc je vous fais entendre juste le début pour vous donner à. Ça donne aussi bien, ça résonne de manière très juste avec tout le travail de la stéréophonie, mais stéréophonie et des bruitages réduits à leur plus simple expression. Oui, ça c'est Gérard Philippe dans Tellur, avec sa mitraillette en boîte de conserve. Et donc là, donc voilà, je vous fais écouter cet extrait.
Premier mouvement, musique, 3 minutes. Deuxième mouvement, doigt. Au seuil du théâtre des opérations, il contempla les cendres de ses mains devant leur berceau. Et tout le monde, même lui, aura douté si son cœur s'est arrêté quelques jours de suite, ou si au contraire, son cœur a tant frappé qu'à plusieurs têtes il aurait pu survivre. Et il mourra! Et il mourra pas au monde!
C'est Louis Armentier
qui
joue le rôle de Jean Lambieux.
Et le porte-drapeau disparaît dans le vent.
Bon. Je pense qu'en fait c'est quelque chose que vous devez être en retard parce que vous avez les gens qui vont reprendre le pom-pom-pom.
Des otages, de ceux qui
subissent en quelque sorte la violence du monde dans lequel ils vivent, et d'autres personnages, les robots, ceux que l'on voit donc un petit peu en haut, les robots qui sont aussi des soldats, qui sont dirigés par des capitaines qui s'affrontent entre eux, qui ne s'entendent finalement que pour des exécutions. Donc, au milieu de ces personnages, un seul surnage, en quelque sorte, c'est Tellur, qui est joué par Gérard Philippe. Alors, je vous propose d'écouter un extrait de la pièce. Donc, vous allez voir, en fait, il n'y a pas, a priori, il n'y a pas vraiment d'intrigue, c'est une pièce poétique dans laquelle se succèdent des tableaux, tantôt un tableau très choral, tantôt des duos, tantôt des grandes tirades. Donc là, on commence par un passage qui s'appelle « La complainte du jeune mort ».
Un jeune mort à l'orée d'un bois, lui aussi avait du faim. Sa chair et son esprit, et plus qu'il n'était normal d'en souffrir. Lui aussi avait eu soif de vin vineux et de justice, et voulut, coup en main, porter la santé des vendangeurs sous le soleil. Lui aussi attendait de redorer ses forces dans le blé sommeillant, d'abandonner sa fièvre et les défenses dans l'eau fertile de la mer. Lui aussi, un jeune mort, il a été cueilli cette matinée. La fève tout le jour l'a pleuré dans son arbre. Le cœur du merle veuf bat dans un mouchoir noir. Un jeune mort, il mesurait ses 20 années. Sur le tard, le renard en flairera la barreuse rougie et la gorge cireuse. Le méchant dira, la terre a les morts dans la peau. Mais cette nuit, ô mes frères, la voix du rossignol en aide nous viendra à travers les drapeaux de fortune du feuillage, et son chant fera de nos âmes une nouveauté si touchante que lorsque nous aurons levé les yeux au ciel, nous dirons de la lune, elle est la banlieue de la terre. Ô jeune mort sur qui j'ai des larmes versées, hérite de mon cœur les vivantes pensées.
Un oiseau chante.
Le petit jour.
Coup de feu au lointain.
Cocorico !
Rafale, canonnade qui vont s'amplifiant.
L'horizon monte jusqu'au ciel de l'enfer. Je sue des bombes.
Bruit d'avion, sifflement, explosion.
Midi tapant. Horloge, église emportée par obus.
Fusée.
On occupe du terrain. On occupe du terrain.
L'intensité du combat diminue.
Coquelico ?
Calme relatif.
Une balle morte atterrit sur mon livre d'heures. Dans les coudrées en cendres, les démons se détendent. Les roseaux tremblent. Brume. Déjà la nuit.
Sonnaille.
Tranquille, ce village. Ses toits d'ardoise luisent à la lune. Nulle fumée au tournevent. Le grain, la fleur, le fruit sommeillent. Le papillon voltige à l'estime entre les branches. L'ombre joue sur les volets troués d'un cœur. L'eau douce clairine, mais il faut avoir l'oreille presque dessus pour l'entendre. À peine une chouette qui chuinte se lève celle d'entre les silences. Sauf que parfois l'air tout entier profondément se respire et que les heures vibrent. Bientôt, le parfum lourd du fourrage et la bonne chaleur des bêtes se démêleront dans l'aurore, quand on ouvrira la porte de l'étable. L'aurore. Il fut un temps où elle ne s'accompagnait d'aucune suspicion. Dès le principe, le jour déclarait la paix aux campagnes. Il ne portait pas en lui la ruine, la cendre, le décombre, le désastre. Il y avait de grandes marges pour la réflexion avant d'atteindre le coucher du soleil. Même la mort mettait des forces. Comme les temps ont changé, on a ôté jusqu'au sommeil aux défenseurs de l'innocence. Non loin d'ici, derrière les tilleuls, dans la salle des fêtes, les otages attendent. La mitraillette garde la sortie. Jeunes gens, vieilles gens, de l'usine ou des champs, ils attendent. Pour chacun, la neige a déjà fondu pour jamais. La pluie s'est évaporée. On n'improvisera plus de feu de bois. On ne tirera plus l'eau fraîche au puits. Les cités et leurs hommes, les ruches et leurs abeilles, toutes s'est dissipé. Les ateliers se sont tus. Le vin a été bu. Le pain rompu. L'orage et les montagnes ont disparu. L'océan ne va plus. C'est la dernière nuit. Leurs heures sont comptées. Leurs minutes déjà tout envahies de silence. Mais voilà que l'horizon s'éclaire, que la gaille sur les arbres s'est posée, que le ciel se lave, le frisson court les champs, la pie a passé d'un arbre dans un autre, les animaux regardent vers la porte de l'étable. On vient, il paraît que le soleil se lève.
9871 F.
Présent.
6312 N.
Présent.
5433 S.
Oui.
8115 S.
Présent.
11237 K.
Présent.
Les otages apparaissent.
Peut-être est-ce pour chacun d'eux le point du plus grand jour du monde.
Il sort et la masse s'avance.
Halte.
Les sept éléments de la masse font peloton d'exécution.
Fauchez-moi toutes ces jeunes têtes blondes, en mémoire du blé de Pharaon et du blé de Pologne.
Et crevez-moi tous ces beaux yeux noirs, en hommage à la nuit de Valpurgis et à la minuit d'encre.
Exécution. Les otages s'écroulent.
Bien.
Merci.
Évidemment, ce n'était pas sans rappeler la période précédente de l'occupation, qui était à l'esprit des spectateurs et des donc, en fait, la scène se poursuit avec l'arrivée, donc là c'est la scène des otages, et puis arrive un personnage qui est joué par Jean Villard, qui s'appelle Gladior, qui est un personnage très cynique, très méprisant, qui trouve que les hommes n'ont finalement que ce qu'ils méritent d'être dans cette situation terrible dans un monde dévasté et qui regarde avec beaucoup de morgue la révolte des uns et des autres. Donc, je vous propose d'écouter justement un extrait. Vous allez entendre. Donc, on va entendre l'extrait. Vous allez entendre d'abord quelques phrases du choral qui sont assez emblématiques de la pièce. Puis ensuite, vous allez entendre Jean Villard. Qui vous le verrez est vraiment pas en situation de jeu, donc qui parle vite, qui à certains moments écorche un peu son texte, parce que voilà, on n'est pas dans la situation du spectre.
C'est les entendre qu'il faut, ces jambes, sur le sol qui grogne, les entendre, ces jambes. Sur une asphalte sénégale et une partie des cathédrales.
Les
entendre ses jambes, défigurer la beauté, disqualifier l'amour.
La tempête armisée, illusion, illusion.
Entendre ses jambes se multiplier de leur tapement.
Plus formidable batterie que les éléphants d'Annibal.
Les enregistrer pour rappeler sur leur crime le verdict de... histoire.
J'aime d'amour un homme ému de ma nuit fière, et le dire est si doux que la langue est lumière. Avant lui, les jardins étaient privés d'odeur, les midis de soleil, je palpitais sans cœur. Je semblais accomplir une besogne morte. J'attendais qu'un oiseau fût glissé sous ma porte. Ô nouvelle riante, ô lendemain connu, mes yeux coulaient de source, ils m'étaient apparus. Tout prit l'azur au vol, je lisais dans les âges. La nuit fauve et le jour, embrassés au feuillage, abandonnaient leur ordre. Il fit le temps divin des poèmes écrits, la caresse à la main. Vois, disait-il, l'eau pure a dénudé ses hanches. Vois comme au souffle s'offre un milliard de branches, et les fruits s'étiraient qui dormaient dans le fleuve, les maisons recouvraient le calme des lueurs, s'accalmir l'eau des mers sur le rocher qui tremble, l'espace nous donnait le secret d'être ensemble. Les justices du blé, la tendresse des chiens. Et j'ai vu que mes yeux prenaient jour dans les siens.
Donc la toute la deuxième partie est dans cette tonalité avec une succession de scènes entre une aveugle et son soupirant, le passionné, le romanesque. Et une autre scène, on comprend qu'elle est plus légère. Là, à la fin, Gladior, que l'on retrouve, est confronté au bonheur des deux amoureux, Hélène et Othellure, et il renonce, il s'en va dépité. Voilà c'était ce qui a été Nucléa, donc le 3 mai 1952. Vous pouvez prendre un temps assis si vous voulez. On a réglé des choses, mais on n'a pas réglé ça. Mais c'est le petit, la certitude qu'il faut garder. Donc je pense que avant de dormir à la dernière partie, je voudrais vous parler un petit peu de la réception de la pièce. D'abord, alors la générale évidemment était fréquentée par la meilleure Société parisienne, Prévert, Cocteau, Picasso, et j'en passe, c'était meilleur, était là. Elle a été perturbée par un petit incident dû au mouvement des lettristes. Alors, les lettristes, c'est ceux qui ont pour maître à penser Isidore Isou, qui en quelque sorte voulait réduire les lettres à la matière de qu'elles étaient. Et donc, les priver, enfin, faire de l'art sans s'occuper du sens, même des mots et de leur sens, du tout. Et donc, ils contestaient, en fait, la qualité de poète en Pichet. Ils ont envoyé un télégramme qui est conservé à la Maison Jean Villard, pour le coup, interdisons Nucléa, un télégramme à Jean Villard qui a été conservé. Et ils ont diffusé le soir même des pièces dont vous avez à la photo, voilà, pas tout à fait sympathiques, médiocre, stop, te prends pour coco, stop, n'est que sûr sur Pipichette, stop, monte à François Gérard, copain s'en charge à Cannes, stop, Nucléa avant-garde 1925, stop, prière de ne pas évoquer esprit, stop. Voilà, donc qui a amené Jean Villard à la fin du spectacle, quand il est monté en scène, à dire « Mesdames et messieurs, lettristes et illettristes, la pièce que nous avons eu l'honneur de jouer devant vous est d'Henri Pichet. » Qui me fait dire aussi que tout en ayant supprimé les trois coups et le rideau, il n'avait pas supprimé, qui finalement assez beau, l'annonce de l'auteur, vous savez, c'est une tradition théâtrale et séculaire, de ne pas donner le nom de l'auteur, il n'apparaissait pas sur les affiches, et on le disait à la fin de la première. Voilà. Et Villard, en fait, était très satisfait de du succès. Les salles ont été très pleines pendant toutes les premières représentations. La location quotidienne pour Nucléa est excellente. Donc, ces fameuses notes de Jean Villard, dont beaucoup sont publiées, vous en avez là une copie. Ce résultat, déjà, me permet d'envisager le choix d'œuvres nouvelles et d'autres jeunes. Et voilà. Remercie. Continuons. C'est vraiment son mot d'ordre pour toute cette période-là. Alors,
Continuons. Malgré tout, on a pu parler de la querelle de l'UPA, parce qu'en effet, en revanche, dans la presse, les critiques ont été assez vives et assez contrastées. Alors, je ne vais pas vous faire une revue de presse complète, ça serait trop long, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu des critiques particulièrement dures du côté, par exemple, du Monde, ou de Robert Kemp dans le Monde, ou de Jacques Lemarchand, qui dit une très regrettable expérience. Robert Kemp, Nucléa, en sa première partie, dénonce en gonflant les joues avec la voix d'Ézéchiel et le style d'Eugène Manuel, les horreurs de la guerre, etc. C'est plein de truisme. En fait, c'est vrai que beaucoup plus modérés reviennent sur plusieurs critiques. La première, plutôt sur le fait que la pièce était fondée sur des lieux communs, l'amour, la mort, la guerre, la paix, etc. Et que pour eux, ça n'avait pas été complètement renouvelé par l'auteur. Autre chose qui a beaucoup fait jaser, c'est la deuxième partie en Alexandre. La première partie a été globalement bien reçue, parce que le style en était quand même vif. Alors certains ont dit que c'était la queue de comète du surréalisme et que c'était pas si nouveau que ça, mais quand même, que ces alliances verbales, cette prose très rythmée, très échevelée et lyrique à certains moments, était quelque chose de très intéressant, mais malgré tout de temps en temps un peu obscur, et qui s'écoutait un peu trop à d'autres moments. Mais alors, par contre, les Alexandrins n'ont trouvé pas au lieu de personne. La première partie, en plus, était soutenue, comme on l'a compris, par un environnement sonore particulièrement riche et qui a beaucoup marqué le public, voire ému les gens. Je reprendrai par exemple dans Libération, Paul Avram dit: de ce chaos surgissent des cris de douleur et ou de révolte qui, même dégagés du rappel d'un passé trop récent, émeuvent profondément. Donc c'était vraiment quelque chose qui a marqué le public. Globalement, on peut dire que le dispositif de Carter a plu aussi, qu'il a été très admiré, que pour certains, il a apporté une touche d'imaginaire qui était très bienvenue dans le spectacle. Certains ont malgré tout trouvé inutile, et certains critiques un peu sévères ont trouvé que justement on donnait trop dans le spectaculaire, voire dans le concours Lépine, en donnant la stéréo, les mobiles, etc. Celui qui a été peut-être un peu plus positif, c'est Jacques Aubry dans L'Aurore, qui écrit: au Théâtre National Populaire, Nucléa, où l'amour, une fois de plus, triomphe. On pourra faire bien des reproches à Jean Villard, il faudra tout de même admettre que la Nucléa de Pichet, qui vient de lancer telle une bombe dans le petit monde du théâtre, représente quelque chose. On ne peut pas en dire hélas autant à chaque général. La prose aride et véhémente de la première partie, dont les périodes sont parfois obscures, se part de charme incantatoire qui envoûte le spectateur et s'oppose à la lumineuse clarté des Alexandrins qui, dans la seconde partie, chantent victoire et amour. Et lui trouve que les lieux communs sont rajeunis au point d'en être explosifs. Il conclut, sur que c'est assez juste, il a retrouvé avec Nucléa le secret des mystères, mystères profanes et modernes, persécution, passion et résurrection du poète. Alors, je citerai pour la critique, pour finir sur la réception, la critique d'Aragon, qui n'a pas vu la pièce, mais qui se sent contraint d'écrire un long article. Et ce long article, il est assez étonnant parce qu'il est une défense des Alexandrins. Le premier acte, expliqué qu'il puisse être par la mise en scène, comportait, avec cette condamnation du massacre moderne, tout ce qui devait déchaîner la haine grimaçante contre le second acte, écrit, provocation insensée, entièrement en Alexandre. Cela fut le thème général de la meute, l'analyse des chiens. Il est étrange que l'arithmétique alexandrine ait gardé jusqu'à nos jours ce pouvoir de mettre en lumière la bassesse d'esprit, qui écrit en vers compté de 12 syllabes, qui reprend cette nécessité française du chant, est toujours assuré d'accusations classiques. Il imite, dit-on, et on lui cherche des maîtres pour l'écraser, sans voir simplement qu'il marche sur les mêmes cimes.
Et je trouve que ce qu'on a entendu tout à l'heure, très bien dit par nos comédiens, prouve que ces alexandrins, au moins en partie, pas tout à fait la rentre.
Voilà, une autre caricature que j'aime bien.
Voilà. Gérard Philippe et Jean Bidard, la bombe H, voici la bombe TNP.
Alors, je passe sur la question de l'interprétation. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, Villard est convaincu qu'il a fait le bon choix, au point qu'il décide de reprendre la pièce. Alors, il la reprend la pièce la saison suivante, avec quand même la conscience qu'il faut la retravailler. Il le demande à Pichette. Pichette, en fait, accepte très peu de retoucher le texte. Et en réalité, il voudrait proposer à Villard un spectacle beaucoup plus vaste, avec non seulement ces deux parties, mais sans doute trois autres pour faire une vraie presque. Parce que Villard a été peut-être effrayé par cette proposition, et en tout cas, c'est plutôt Gérard Philippe qui a retravaillé le spectacle, en fait, en inversant les deux parties. C'est-à-dire en faisant commencer par la partie sur l'amour et terminant par les infernales, sans doute avec ce, pour répondre au proverbe bien connu, on garde le meilleur pour la fin. Mais on ne peut pas dire que ça ait vraiment changé l'appréciation du public. Plus tard d'ailleurs, Pichette reconnaîtra que en fait cette pièce n'avait pas atteint, comme il le dit, son point poétique, et que c'était comme le brouillon d'une fresque. Il rappelle en fait que il aurait pu beaucoup plus travailler, il a bien cette conscience. Voilà. La reprise marche quand même bien au début, et il y a un travail particulier fait sur le public. Alors, on sait que c'est une des caractéristiques du TNP, mais je pense qu'au tout début, tout n'était pas encore en place. Et en mars 1953, au moment de la reprise, là, on commence à plus travailler sur le public, en lui faisant remplir des questionnaires, et non seulement lui faisant remplir des questionnaires, en indiquant à le faire, mais en les lisant. Et donc, l'équipe du TNP lit les questionnaires, donc on les transcrit en fait. Dactylographiés et on les réunit dans des recueils pour les diffuser dans les titres du TNP. Et il y a un travail aussi très particulier fait avec les étudiants. Il y a une rencontre, par exemple, le 25 mars à la Sorbonne avec Pichette, Villard, toute l'équipe pour parler avec les étudiants du spectacle. Alors, ce que je vous propose d'entendre, c'est trois réactions de trois spectateurs qui ont. Bien accepter de répondre au questionnaire du TNP. Donc le premier, il s'agit de Bernard Recaud, qui était donc dessinateur industriel.
Certes, oui, votre compagnie s'appelle le Théâtre National Populaire. Croyez-vous que le spectacle auquel je viens d'assister hier soit populaire? Croyez-vous que ce texte informe et incohérent, ces énigmes tendancieuses et en échafaudage affreux, soit fait pour plaire au public que vous vous êtes choisi? Je me rappelle là vos paroles lors de votre conférence, Le théâtre et la soupe, de novembre dernier. Vous condamnez le théâtre d'Édouard Bourdet. Et là, je suis d'accord avec vous. Ici, celui-là, mais si c'est celui-là qui doit le remplacer, cela est inadmissible. Bourdet écrivait en français, lui, au moins. Voilà la remarque que j'avais à faire. Et si je peux me permettre de vous faire une suggestion, adaptez donc l'annuaire téléphonique, au moins là, le texte est en français, et je rirai peut-être au lieu de dormir. Merci.
Alors, ensuite, Philippe Doumain, qui était donc étudiant en lettres.
Formidable. Je ne suis allée assister à du théâtre que parce qu'il s'agissait d'une représentation étudiante. et avec une certaine méfiance, la critique ayant crié partout que ce n'était qu'un navet scolaire. Je suis revenue du TNP absolument enthousiasmée, et de l'œuvre et de la mise en scène étonnamment poétique, collant à la pièce, ainsi que les projecteurs qui participent à l'action, la suivent, y aident, au lieu d'être simplement un décor. La musique de scène est splendide, et Pichette a réconcilié un certain nombre de jeunes avec l'Alexandrin. Continuez comme ça. Que Villard ne se soit pas laissé influencer par la critique et continuer malgré tout à la jouer, c'est magnifique. Il faut absolument imposer cette pièce, car c'est vraiment la pièce des jeunes, une des rares qui soit à nous. L'amour, la paix et une espèce d'optimisme que l'on se fait avec les mots, avec les sacrifices, avec nos souvenirs de la guerre, avec toutes ces choses qu'on ne peut oublier. Ces voix qui crevaient autour de nous, parmi nous, dans la salle, c'étaient les nôtres. Émotion extraordinaire. Mais il faudrait dire aux étudiants ce qu'est une Cléa en réalité et ce qu'elle apporte.
Et Jacques Fromont aide Chimie.
Nucléa est une œuvre à classer à part. De dire que c'est un chef-d'œuvre, je suis incapable, mais je n'ai pas le droit de dire que c'est un navet. À cette heure, mon jugement n'est pas encore précis. Le sera-t-il un jour? Le TNP a eu l'heureuse idée de jouer Nucléa. Je l'en félicite. Il se doit de continuer de jouer une pièce d'auteur moderne si elle présente un intérêt théâtral. Mais il ne faut pas croire que seules les pièces modernes ont un intérêt. Les classiques, à mon point de vue, leur sont supérieurs et sont bien plus compréhensibles. Et cette matière, le public est ses dieux, est seul juge.
Donc, malgré tout, les représentations de Nucléa ont cessé le 25 mars, donc après une dizaine de représentations. Il faut dire que dans 2010, pour une salle de 2800 places, quand il y avait plus de 5 ou 600 personnes, c'était plus rentable, mais 5 ou 600 personnes pour un auteur contemporain, aujourd'hui, on trouve ça déjà formidable. Jean Villard a toujours gardé quand même un souvenir très fort de cette période-là, et il a toujours défendu ce choix d'avoir choisi un auteur contemporain. Il dira d'ailleurs, certes dans notre répertoire, donc là on est en 62, 10 ans plus tard, il y a Lamar, il y a Le Cid, il y a les Caprices de Marianne, il y a Lorenzaccio, il y a le Mariage de Figaro, il y a Auguste et Sina. Mais n'y a-t-il pas aussi, mis en scène par leur compagnon régisseur, la première œuvre de Gatti, la seconde de Pichet, la première œuvre de René de Obadia, de Pinget, la seconde de Boris Vian, de Vautier. Donc, en effet, a posteriori, on peut dire que Jean Villard a fait des choix en termes d'auteurs contemporains qui étaient justes, parce que ces auteurs-là sont des auteurs intéressants, on vient de voir pour Pichet, mais ce ne sont pas des auteurs qui ont connu une grande postérité, malgré tout, dans le domaine du théâtre. Alors, il est passé à côté des auteurs dont je parlais au début, c'est-à-dire de Beckett, Ionesco, enfin du théâtre de l'absurde des années 50. Et là, on peut dire que c'est plutôt Jean-Louis Barrault qui a réussi à programmer dans son théâtre Beckett, Ionesco, Genet, Duras, Starrault. Quand on fait la liste, elle est assez cruelle pour Villard, mais je pense que c'est pas un défaut d'intérêt, peut-être un manque d'intuition, par contre, sur quelles étaient les écritures qui ensuite allaient porter. Alors, notre rendez-vous d'aujourd'hui est inscrit dans un cycle que vous suivez sans doute avec grande attention, un poète et tout sera sauvé. Pour André Pichet, vous pouvez trouver meilleur intitulé. Donc, avant de nous quitter, revenons juste à Henri Pichet. Henri Pichet, après, en fait, Nucléa n'a plus beaucoup écrit. Il a publié quand même d'autres recueils de poèmes, notamment les poèmes offerts, dans lesquels il y a un
très beau poème sur les volumes de Calder, justement, qui est absolument magnifique. Il est parti dans les années, au début des années 60, il est parti au Québec sur les traces de son père. Il y a été plusieurs années et il a été très, comment dire, happé par les questions de la richesse et des origines de la langue française. Il s'est beaucoup ensuite plongé dans les dictionnaires, il a passé des années ensuite après son retour en France dans la Bibliothèque nationale et il s'intéressait particulièrement au rouge-gorge. Il a consacré énormément de temps au chant du rouge-gorge, à où on trouvait les rouges-gorges, et son dernier recueil de poèmes s'appelle « Les dithyries du rouge-gorge ». Il a écrit, malgré tout, il a écrit un recueil de poèmes qui est marquant et qui est particulièrement intéressant, qui s'appelle « Le tombeau pour Gérard Philippe », qu'il a publié en 1961, donc après la mort de Gérard Philippe, on a bien compris qu'il était très proche et qu'il a profondément marqué. Jean Lacouture, qui a écrit un hommage à Pichette, écrit « Quand Gérard mourut, Henri fut foudroyé et des années durant, muet. Qu'étaient ces mots que la voix de soie brûlante ne portait plus ? Condamné à être lu, des mots de Pichette, cette poésie en expansion, selon Drac, ont repris leur vol. Et si fort que Gaston Bachelard, électeur inspiré entre tous, lisant les revendications, lui écrivait, donc à Pichet, « Vous, vous avez la poésie dans le sang. Votre souffle crée des mots. Je respire mieux quand je vous lis. » Et donc, pour terminer, je vous propose d'entendre quelques extraits de ce tombeau pour Gérard Philippe, écrit par Henri Pichet.
Se fût-il donné aux épiphanies s'il n'eût été lyrique et risque tout ? À 3 jours de la générale, les grèves ouvrières nous plongeaient dans la nuit noire, mais nos cœurs forçaient la lune comme une comète double. Gérard représentait le poète, il jouait sans maquillage, portait un chandail pour tout aller. Il était vertigineux. Une fontaine de mémoire dans la tête. Une nervosité de chevreuil qui tremble au diapason des feuilles, et les mains plus prodigues que 10 oiseaux. Nous jouions dans un théâtre grand comme une crèche. Il y avait de la folie enfant partout, et quelque chose de très grave en même temps que de survolté. Oh, nous n'étions pas de bon ton. Terreur, pitié, colère et manifestation d'amour nous broyaient l'âme dans la bouche. Notre poème ouvrait sur la vie déchirante et la survie spacieuse. Nous devions être à égale distance de Dieu et de rien, car la jeunesse est au milieu du monde. Des spectateurs grognaient, ne m'aimaient pas. Cependant, tous admiraient Gérard, et lui venait en catimini me dire que c'était moi qui l'aimais bien. Ce qui nous unissait était en poésie. L'écho de la guerre frappait en plein ce cœur qui ne battait que d'amour le long d'une vallée de larmes. Nous avions en commun horreur des cruautés de la guerre, honte que les ailes de l'amour soient sacrifiées à l'éploiement de la victoire sanglante ou au vol rapace de la mort. 5 ans après, il mit en scène Nucléa au PNP. C'était sa première mise en scène. Il s'est révélé un homme de théâtre d'une insigne compétence, voyant large tout en étant minutieux et avec un sceau bien à lui. Les comédiens lui obéissaient au doigt, à l'œil et au sourire. Mais nous étions descendus dans la cale d'un porte-avions sans ciel, la salle du palais de Chaillot. En outre, Nucléa n'était pas à son point poétique, et quoique Gérard eût fait des merveilles, nous restâmes devant le brouillon d'une fresque. Je dois à sa mémoire de reprendre, de remanier l'œuvre qu'il a aimée, pour ce qu'elle s'attaquait à la guerre atomique, et si peu que ce fût, servait la paix.
Ô festival d'Avignon, ô soirée éclairée par tous les yeux à l'unisson de la merveille. Dans la cour d'honneur du palais des papes, sous la mathématique des étoiles, au pied des pentes hautes pour les bannières sinueuses, tandis que l'ombre démesurait la flamme de l'acteur sur le mur historique, le TNP rendait son lustre à la théâtrale aventure. Gérard Philippe s'incarnait dans le si. Je suis jeune, c'est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Grâce beaucoup à son romantisme parfait, à son autorité de lys, à sa témérité pleine d'un charme fou, les amours de Rodrigue et Chimène redevenaient la plus emballante épopée intime et jeune du théâtre et du monde. Nuages, puis raisons ardentes, les stances l'assombrissaient et irradiaient. Quel prodige que de le voir comédien si sincère, interprète adorable, nous restituer l'heureux poème du Corneille de 30 ans. N'y avait-il point là une de ces rencontres enchanteresses dont les siècles aient le secret? Une de ces conjonctions fortunées qui relèvent Dieu sait de quel décret?
Depuis ce matin-là de son adieu au monde, certains mots pour moi se sont couverts de larmes. Je ne les prononcerai plus qu'il ne me rappelle avoir été dit par lui, avoir gardé ses intonations, la marque de sa clameur. Ces mots, à l'ordinaire consignés dans les pages des livres, et tout sombre d'être gravés en encre morte, avaient recouvré, je le crois, leur jeunesse d'inspiration, et pleinement s'étaient remis à vivre, sensible, impétueux, agile, exact, ressuscité par cœur. Paroles libérées qui s'envolaient de l'écriture heureuse, qui maintenant repose dans le silence ami.